Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique.
Bonjour à tous et toutes. Il y aura une rencontre avec Lorraine Auliel après l'écoute du premier épisode de sa série de podcast qui s'appelle Mon Odyssée chez Nouvelles Écoutes, qui sortira le 24 octobre pour les abonnés Nouvelles Écoutes et qui sera ensuite disponible le 24 novembre, un mois plus tard, sur les plateformes. Peut-être que je ne vais pas trop en dire et vous laisser écouter le premier épisode. Et puis, il y aura de toute manière un espace ensuite pour les questions directement à l'autrice. Donc, je pense qu'on peut, si ça vous va, on peut y aller.
Dans cet épisode, j'aborde des sujets sensibles relatifs à l'abus psychologique et aux violences sexuelles. Si le sujet vous touche particulièrement, écoutez cet épisode quand vous vous sentirez prêt et prête.
Ah, t'as été placée. À la DAS. Ah, on dit plus DAS, on dit ASE. Aide sociale à l'enfance. Et je peux te demander pourquoi ? Bah, pourquoi t'as été placée ? Enfin, si c'est pas trop indiscret, quoi. Et tes parents, tu les vois encore ? Tu vois encore ta famille ? Ah non ? Ah bon ? Ah mais genre plus du tout, genre tu vois plus du tout ta famille, quoi. Pourquoi ? Et même tes parents ? Ça va, c'était pas trop dur ? Bah d'être placée, je veux dire, c'était pas trop dur.
Voilà. Ça fait 15 ans, comment une fois par semaine je rencontre ces gens qui ont ces questions. Ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans qu'en fait, j'ai envie de hurler que malgré tous les on-dit qui existent, c'est souvent pas le placement l'horreur. C'est pas le placement qui est dur. Mais plutôt les raisons qui ont conduit au placement. Et vos questions. Allez, je me présente. Moi, je suis Lorraine Déborah Chaya depuis 2009, même si je suis née en avril 1993 en tant que Déborah Chaya. Bruchim Abaim, ouais. Bienvenue dans ma vie. En 2009, j'ai 15 ans. Je suis en seconde au lycée. Mes parents sont divorcés. Je vis chez mon père super strict. Tous les matins, avec une copine que je connais depuis la maternelle, je vais à l'école juive super religieuse. Elle est à 15 minutes à pied. Tous les matins, sa mère me donne mon goûter pour la récréation. Des croissants au chocolat tout juste sortis du four. Et cette école, c'est un peu ma première maison. Moi, j'adore l'école. Je préfère l'école à la maison. Je m'y sens mieux. Non, en vrai, je préfère le conservatoire à l'école et à la maison. C'est le conservatoire, ma première maison. Là-bas, je peux être qui je suis. Et en plus, les cours, ils sont mixtes. Pas comme à l'école, où il n'y a que des filles. Je suis les cours au conservatoire depuis mes 11 ans, même si je joue seule du piano depuis mes 6 ans. Ça me rassure, le piano. C'est comme un doudou en plein cauchemar. Alors j'y joue au moins 2 heures, tous les soirs. Depuis que je suis entrée au conservatoire, en plus des cours d'instruments, j'y apprends le solfège et l'orchestre. Le chant choral aussi. Mon père, il sait pas que je chante. Parce que dans ma famille juive super religieuse, quand on est une fille, on chante pas devant une personne du sexe opposé. Chanson juive ou chanson pas juive, c'est interdit. Alors il sait que je vais à la chorale au conservatoire, mais il croit que je fais du playback. Je lui ai menti. Moi j'aime chanter. Alors le mardi soir, je chante et je mens. Et le reste du temps, soit c'est mercredi et je dois aller chez ma mère, soit c'est dimanche et je fais mes devoirs, et soit c'est Shabbat, le vendredi soir et le samedi. Quant au samedi soir, je fais mon emploi du temps pour la semaine à venir. Je prévois tout. À la minute près, tout est aligné. J'aime quand les choses sont rangées, j'aime, ordonnées, j'aime. À leur place. C'est pas j'aime, c'est j'ai besoin. Il faut. Si ça dépasse, je me sens perdue, comme si je me noyais. En prévoyant tout, rien peut m'arriver, je me dis rien peut m'arriver. Je suis occupée à faire quelque chose, personne peut m'interrompre. Si je fais quelque chose, y a rien qui peut... Au lycée, avec Ariel, ma copine, on s'est inscrite à la chorale de l'école et une fois par semaine, lors de la pause déjeuner, nous répétons le spectacle pour la fête de Pourim. Pourim, c'est le carnaval juif. On est toutes déguisées vers février et on se promène avec des paniers de nourriture qu'on offre à nos amis. L'idée, c'est de célébrer l'interruption anticipée d'un génocide contre le peuple juif au temps de l'Empire perse et du roi Assuérus. Pour le spectacle de Pourim, moi je rêve d'avoir un solo. Mais c'est Ariel qui reçoit le solo. Je suis deg, mais c'est pas grave, c'est ma copine, je prends sur moi. Un jour, après une répétition, elle me propose d'aller enregistrer une chanson chez son oncle, qui est ingénieur du son. Moi, je vais aller dans un studio et je vais chanter. Pour de vrai. Je me crois déjà star de la chanson française. Et Ariel, elle me dit qu'on va aller sur Paris et que le soir, on va ressortir avec notre propre CD. Ariel, elle me dit aussi qu'il faut qu'on choisisse une date, en semaine, pendant les vacances de février.
Oh là là !
Mais est-ce que je choisis un jour où je serai chez mon père ou plutôt un jour où je serai chez ma mère ? Je passe en revue les avantages et les inconvénients et... chez ma mère, je n'aurai peut-être pas besoin de rendre des comptes. Mais elle râle trop fort si je passe pas tout mon temps avec elle quand je suis chez elle. Et j'ai vraiment pas envie de supporter ce chantage alors que je vais réaliser un petit rêve. Et mon père, bah, il est un peu trop contrôle fric, quoi. Et même un peu plus qu'un peu trop, en fait. Je dois tout lui raconter, tout ce que je fais, dans les moindres détails, dans les moindres gestes. Et je peux absolument pas lui dire que je souhaite enregistrer un morceau chez l'oncle de ma copine du lycée, je peux pas. J'ai pas le droit de chanter. En plus, mon père, il refuse que j'aille chez mes copines s'il les connaît pas très bien. C'est un principe chez lui. Et Ariel, il la connaît pas du tout. Donc cet enregistrement, c'est pas possible, quoi. Chez mon père ou chez ma mère, c'est pas possible, voilà. Mon rêve de chanteuse s'évanouit juste parce que je suis née dans la mauvaise famille. Elle est trop étriquée, trop liberticide, trop old school, trop ultra orthodoxe, trop ultra méga supra tout. Enfin. Je pourrais. Si je mentais, je pourrais. Et si je mentais? Je suis prête à encourir le risque d'une soirée rythmée par les cris et les menaces de mon père, mais pas à endosser la tristesse de ma mère. Alors je vais mentir. Je veux chanter, c'est tout. Dieu, il me pardonnera. Au pire, je prierai un peu plus fort à Kippour. Alors avec Ariel, on fixe enfin la date, le jeudi 26 février 2009. Et en attendant, on répète à toutes les récréations. J'imagine ce jour comme une libération. J'ai hâte. Enfin, un truc nouveau dans ma vie. Comme des paillettes dans ce quotidien trop millimétré. Parfois, je m'imagine plus vieille sur scène en tenue de chanteuse et ça me fait rêver. « 26 février 2009. Enfin, te voilà. Salut, 26 février. Moi, ça va, je vais chanter. Mon père, il est au travail. Mon petit frère, il a commencé sa prière du matin. Et moi, je vais chanter. J'arrive à Saint-Lazare. Ariel, elle est déjà là. Ensemble, on prend la ligne 12. Et entre deux stations de métro, Ariel, elle me regarde comme si elle allait m'annoncer un truc, mais vraiment spécial. J'ai hyper peur. Elle me dit... Tu sais, mon tonton, il est un peu spécial et il est vraiment très grand et il est impressionnant. Et moi qui fais genre 1m50 à cette époque, je lui dis « Mais grand comment ? Et impressionnant comment ?» Et elle me dit « Grand genre 2 mètres et impressionnant, Elle a la bouche grande ouverte comme ça. Elle peut pas définir plus que ça, impressionnant. Ça doit être sa taille, je me dis. Moi, les grands, ils m'impressionnent. En même temps, je suis petite. » Le trajet est continu, je suis en boucle. Il doit être grand et gros, ce monsieur. Surtout gros. Pour être aussi grand, faut être gros. Ouais, c'est ça. Il doit même avoir des cheveux tout noirs, bouclés, comme Ariel. Ah ça, ça m'impressionne. On arrive là, en bas de chez lui. Ariel, elle compose le code, et on rentre dans une cour arborée. On va tout au fond de la cour, on entre dans un bâtiment un peu délabré, les murs sont craquelés, ça sent le bois ancien... Ariel, elle me dit « Troisième étage sans ascenseur ». Un grand bourru qui parle fort avec des cheveux bouclés, ça va vite dans mon cœur. Ariel sonne. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Mon rêve est de l'autre côté de la porte. Mon rêve est de l'autre côté de la porte.
Salut.
Lui, impressionnant.
Bonjour.
Bah, il est grand, ok. 2 mètres, ok. Mais il est tout fin. Les cheveux poivre et sel, des lunettes, un t-shirt noir et un jean foncé.
Je te connaissais pas. Et je me suis dit, en regardant tes yeux, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit, elle a beaucoup d'intensité bloquée en elle. Beaucoup de choses à exprimer qui sont contenues. C'est comme si tu sens que ça déborde, tu vois, mais tu mets le couvercle. Et ça déborde quand même, mais tu remets le couvercle.
Enchantée, moi c'est Déborah.
Bonjour, et moi je suis Monsieur Tonton.
Il a l'air hyper gentil. On n'a pas vraiment les mêmes critères d'impressionnant avec Ariel, va falloir qu'on parle. Il se penche pour me faire la bise, et ça me fait rien. Je meurs pas. Dieu ne fait pas descendre la foudre. Oh là là, si mon père savait... D'après la religion, je n'ai pas non plus le droit d'avoir un quelconque contact physique avec un humain du sexe opposé. Et là, je collectionne les mauvaises actions. Je mens à mon père, je fais la bise à Monsieur Tonton, je vais chanter une chanson qui en plus est non-juive, pourvu que mes blasphèmes s'arrêtent là.
Et puis, la deuxième chose que je me suis dit, c'est que j'ai le sentiment que je vais la revoir. J'avais l'impression de te connaître. Je voyais tes yeux comme ça. Je me disais, mais c'est étrange. J'ai eu le fort sentiment que j'allais te revoir.
On va direct dans le studio. À l'intérieur de moi, ça fait « Ok, je suis prête. À moi les disques de platine. » Mais en vrai,
j'ai envie de disparaître, quoi. C'est trop, là.
Je suis hyper intimidée. Moi, je souris juste et je me contente de suivre Monsieur Tonton et Ariel. Quand je rentre dans le studio, je rentre aussi dans un monde. Pas hyper grand, ce monde. Il y a plein de guitares qui sont accrochées au mur. La lumière ocre, elle est tamisée. Il y a des guirlandes lumineuses vertes. Il fait pas chaud. Et pourtant, j'ai chaud. Je me sens bien. Monsieur Tonton s'assoit devant une machine avec beaucoup trop de boutons pour qu'un cerveau à lui tout seul puisse retenir l'utilité de chacun. Il me tend un casque. C'est drôle, on dirait que je m'entends à l'intérieur de moi-même.
On aurait dit que t'étais un peu comme une petite souris, quand même. T'avais l'air content d'être là, mais t'étais très, très intimidée. Ariel, elle était très engageante avec toi. Elle essayait de te pousser un petit peu à t'exprimer, chanter. Elle était dans une démarche très généreuse. C'était mignon. Et toi, comme une souris qui sort de sa cachette, tu montrais le petit bout de ton nez de temps en temps. T'as commencé à accepter, à chanter. Quand je te l'ai proposé, je me disais que... Enfin déjà, t'es là pour ça, et puis je me disais que ça allait pouvoir t'aider à te sentir un peu mieux. Ça se voyait que t'étais pas au top de ta forme, quand même.
Ariel, elle chante, et je l'entends direct dans mes oreilles. Et là, je me dis, peut-être qu'un jour, on pourra faire un vrai duo sur scène.
Quand je t'ai fait chanter, j'ai remarqué que tu avais un joli timbre de voix. Tu ne maîtrisais pas la justesse de ta voix, mais tu avais un très joli timbre de voix avec de l'air dans la voix et une voix douce. Et il me semble que je t'avais félicité là-dessus.
Oui, vous m'aviez dit, il faut que tu chantes du Billie Holiday et tout. Moi, j'y connaissais rien.
Mais parce que quand tu chantais un peu en décalé quand même, par rapport à la rythmique.
Un peu juste.
Un peu. Billie Holiday, elle en faisait un peu son... C'était son... Presque sa carte d'identité. Elle chantait en décalé avec le temps, mais elle le rattrapait toujours. Toi, tu le rattrapais pas nécessairement. C'est ça que j'ai pensé à elle. Et puis, curieusement, je t'ai comparé à Billie Holiday alors que... C'est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie.
Elle a une vie de merde, hein, je me suis renseignée.
Une vie de merde, pas dire que la tienne était étincelante. Hein.
Monsieur Tonton termine ses réglages. Moi, je continue de rêver à ma carrière de rockeuse et on discute. Il m'assure que je vais aimer les cours de philo quand je serai en terminale. J'ose pas lui dire que moi, dans mon école, on doit être forte en maths, pas en philo.
En plus, la philo, c'est blasphème dans ma communauté juive orthodoxe. La vraie philo, c'est les rabbins. Quand j'ose pas dire, eh ben je souris. Alors j'hausse les épaules et je souris. Je prends mon CD, je le serre fort, très très fort, et je dis merci.
Tu peux pas frapper, là ?
Papa, il est là ?
Bah non.
Ouh, j'ai réussi. Y a que mon petit frère.
Je révise.
Tu révises pas, tu dessines.
Je craque et je le mets au parfum.
Attends, écoute. Je suis allée en studio chez l'oncle de ma copine Ariel du lycée et j'ai chanté.
Qu'est-ce que tu
racontes ? Je le vois.
Je comprends rien, là, des
il lâche vaguement son feutre. Il a pas l'air si enthousiaste que ça. Je suis hyper déçue. Il est même un peu stoïque. Mon petit frère, c'est un peu comme moi, mais un garçon. On nous prend souvent pour des jumeaux. Je crois que si j'aime bien une seule personne dans ma famille, bah c'est lui. Mon père entre. Je lui raconte que j'ai passé une super journée. J'ai avancé dans mes devoirs de mathématiques, j'ai révisé mon piano, j'ai rangé ma chambre. Le dîner passe. Je cache ma joie. Ça ferait bizarre. Je rentre dans ma chambre, je lis un peu et j'éteins la lumière. Je parviens pas à trouver le sommeil. Je repense à toute cette journée. J'ai chanté. Et même à toute cette discussion qu'on a eue sur les émotions avec Monsieur Tonton. Leur origine, leur chemin dans le corps, leur chemin dans le cœur. Je me tourne dans tous les sens, mais sans succès. Je dors pas. Je suis perturbée. Je vais bien. Je me sens aller bien. Oui, c'est ça. Je vais bien. Bien comme quand maintenant, 15 ans plus tard, je vais pas bien. C'est dire, hein. Mais bref, ce bien-là, il faut que ça continue. Le bonheur ou l'espoir, je sais pas ce que je ressens à ce moment-là, mais peu importe, je sais que c'est fait pour durer. Je peux pas perdre contact avec ce monsieur tonton. C'est absolument pas possible. Depuis mon lit, j'entends mon père fermer la porte de sa chambre et se coucher. J'entends l'interrupteur de sa lampe de chevet s'éteindre. Alors dans le plus grand des silences, je me lève et avec mille précautions, je sors ma trousse, une feuille double, et j'écris. Monsieur Tonton, c'est Déborah. Je vous appelle comme ça car c'est ainsi que vous vous êtes présenté. Je voulais vous écrire car en partant, j'ai pas eu le temps de vous remercier et ça me travaille. Donc merci, merci beaucoup, vraiment merci. Je voulais également vous écrire pour vous dire merci. Mais un merci d'une toute autre sorte. Un qui vient de là, du cœur. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai repensé à la discussion qu'on a eue, j'ai trouvé la réponse. J'adore aider l'autre. C'est pour ça que je veux devenir chirurgien. Je trouve que c'est le summum de l'aide, sauver des vies. Et vous savez, moi j'ai pensé d'aller voir un psychologue, parce que je savais qu'il fallait que je parle à quelqu'un, qui me donne des réponses que je connais pas encore. Mais pour ça, fallait passer par un de mes parents et franchement, j'ai aucune envie. Je sais déjà ce que chacun me dira, mon père.
Et de bon, on a tout essayé avec ta mère et ça a pas marché.
Et ma mère ? Ma mère, j'ai pas envie de lui en parler. J'ai pas envie, parce que j'ai envie de garder ça pour moi. Comme une sorte de jardin secret, vous voyez ? Et j'adore la solitude, donc je préfère penser seule plutôt que partager. Et c'est là que je viens pour chanter, et vous me dites tout ça. Comment est-ce que vous avez su tout ça sur moi alors que je vous connais pas ? Vous avez tout de suite trouvé que je voulais que tout soit parfait du premier coup. Comment ? En tout cas, bravo et merci. En espérant ne pas trop vous avoir opportuné. Déborah Chaya.
Je demande à Ariel l'adresse de son oncle, je vole un timbre à mon père et j'envoie secrètement ma lettre à Monsieur Tonton.
Durant les 3 semaines suivantes, j'invente à mon père des subterfuges pour récupérer le courrier. Je propose de prendre de nouvelles responsabilités dans la famille. Jeter les poubelles et récupérer le courrier, à la grande joie de mon petit frère qui est maintenant exempt de ses corvées. Tous les soirs, je suis un peu plus déçue que la veille, persuadée que ma lettre a dérangé un peu ce monsieur. C'est vrai, soyons honnêtes, c'est chelou. Une ado qui envoie une lettre à un adulte en 2009, c'est déjà chelou. Et un soir, j'en ai marre d'attendre en fait. Je prends une décision. S'il m'a pas répondu après le week-end, je renvoie une lettre pour m'excuser et basta, tant pis.
J'ai trouvé ça quand même assez culotté. Et puis, totalement hors de l'ordinaire. Et donc, du coup, ça m'a interpellé. Mais j'avais absolument aucune idée de la suite.
Ce week-end-là, je suis chez ma mère. Dès que je rentre de chez elle, je me rue sur la boîte aux lettres. Je l'ouvre, et là, il a répondu.
Chère Déborah, quelle agréable surprise de te lire. Tes remerciements me touchent beaucoup. Tes questions aussi. Tu es en train de te construire. Tu n'es évidemment pas la seule à avoir le désir de parler à un psychologue. À 20 ans, je suis partie voir mon frère à Hong Kong où il travaillait. J'avais espoir que mes problèmes personnels resteraient bien tranquillement en France, comme je me suis trompée. C'est là que j'ai décidé d'aller consulter un psy, et cela m'a fait du bien tout de suite. Simplement, d'être écouté et entendu, c'était déjà énorme pour moi. Ton jardin secret, comme je te comprends. Voilà quelque chose de précieux, il te rend riche et profonde. Comment ai-je fait pour te voir, peut-être un peu plus que d'autres, simplement en ouvrant les yeux sur toi, mais surtout en moi-même? Tu adores la solitude, et si tu l'aimais simplement? Tu adores aider l'autre, tu lui dirais quoi à cette personne si elle voulait construire sa maison? Tu es déjà en train de construire le premier étage. N'oublie pas le rez-de-chaussée et surtout les fondations. Tu ne m'as pas importuné, bien au contraire. Écris-moi quand tu veux. Comme tu veux, tu seras toujours la bienvenue. Avec toute ma bienveillance, Monsieur Tonton.
Cher Monsieur Tonton, ouf, je vous ai pas dérangé. Quel soulagement. Je me faisais du souci. Je me disais, quelle connerie que j'ai encore fait. J'étais encore énervée contre moi. Ce que je dirais à la personne qui veut construire sa maison, de demander conseil à un spécialiste et de bien réfléchir, car son univers sera dedans. Mais surtout de sauter aucune étape, de prendre le temps. Car s'il a fait une erreur de construction, lorsqu'il s'en rendra compte, ce sera trop tard. Et ce sera beaucoup plus dur de revenir en arrière. Ok, j'aime la solitude. Je dis adorer car c'est le contraire de détester, non? Or, je déteste être avec plein de gens. Je me sens agressée. Mon grand frère, que j'apprécie pas particulièrement, est revenu d'Israël vendredi dernier. Et il a troqué la fac pour la yeshiva. La yeshiva, vous savez, c'est l'école de la Torah. À peine rentré, il me sort.
Je suis ton grand frère, tu dois m'écouter.
J'avais une de ces envies de lui répondre comme vous m'aviez dit. Ok, t'es mon grand frère, mais tu me dois autant de respect que moi je t'en dois. J'ai fait moins de conneries que toi. Je lui ai pas dit, mais c'était tout comme. Et vous avez raison quand vous m'aviez dit. Ta voix, elle est comme ça parce que tu refoules ton enfance. Tous mes amis veulent grandir, et moi, non, je suis bien là à 15 ans. Mais peut-être qu'il y a une part d'enfant que j'accepte pas. Et ça s'exprime par là. En vous remerciant, Déborah Cheya.
Ce que tu dis sur ton grand frère est très vrai et m'a bien fait rire. On a tous une part d'enfant en nous. Certains la détestent et font tout pour la faire disparaître au plus vite. Ta part d'enfant, à toi, elle est précieuse. Ne la déconsidère pas. Ne lui en veux pas d'être toujours présente. Au contraire, inquiète-toi si elle disparaît. Tu es à un croisement entre soi-disant le monde des adultes et celui des enfants. Mais pourquoi séparer les deux? Tes spécificités font ta différence et ta différence te rend intéressant.
Et donc là, je lis ta lettre, je suis dans le métro sur la ligne 12. Je lis ta lettre. Et je me bloque sur un moment, sur un petit passage. Je me souviens que ça m'a choqué, ça m'a interloqué. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il lui est bien arrivé ce que je pense qu'il lui est arrivé dans ce que je viens de lire? J'étais très perturbé par ce que j'ai lu. Ça m'a interpellé. Et donc, dans la lettre suivante, j'y suis allé franco, je t'ai posé la question.
Tu adores la solitude, parce que quand tu es entouré de plein de gens, tu te sens agressé et tu te fais remarquer. Donc, si je comprends bien, tu adores la solitude parce que tu as peur des autres. Si tu te fais remarquer, que crains-tu que les autres voient de toi?
Quand je lis cette phrase, je suis dans l'ascenseur, entre la boîte aux lettres de mon immeuble et l'étage de l'appartement. Quand je lis cette phrase,
l'ascenseur continue son ascension, tandis que les mots de Monsieur Tonton, comme un uppercut, font exploser mon cerveau. J'ai un flash. Un viol. Deux viols. Trois viols. Trop de viols. Là, j'ai arrêté de lire la lettre depuis tellement d'étages. Dès que l'ascenseur s'arrête, je fonce jusqu'à la chambre de mon petit frère pour lire la définition dans le dictionnaire. Pour vérifier. Sait-on jamais. Vous avez raison. J'ai peur que les gens me découvrent. J'ai pas envie que tout le monde me connaisse. J'ai peur qu'ils voient mes fragilités et une de leurs causes. Ou la cause, je sais pas. La cause, elle est trop dure. J'arrive même pas à la dire à voix haute. Je l'ai jamais dite, ni écrite. Je crois que ça vient de mon frère, celui qui vous a fait rire. Il m'a violée de mes 5 à mes 9 ans, et même au CM2. Je sais pas si j'ai bien fait de vous dire ça, vous êtes la première personne à qui je l'écris. Ça me fait un nœud au ventre d'y penser. PS, je m'étais trompée dans la première lettre. C'est pas opportuné, c'est importuné. Mon Odyssée est une production Nouvelles Écoutes. Un podcast écrit par Lorraine Oliel avec la participation de Muriel Coulin. Réalisé par Aurore Mailleux. Produit par Julien Neuville. Sound design et mixage par Tim Dornbusch. Musique originale composée par Quentin Sirjac. Dans cet épisode, vous avez entendu la voix de Monsieur Tonton et dans le rôle de Binou, Dimitri Doré.
Alors, on a écouté le premier épisode, il y en a 8, qui ne sont pas tous de la même longueur d'ailleurs, ça, il y en a qui font plutôt 20 minutes, d'autres plutôt 40, et ça raconte l'odyssée de Lorraine qui est avec nous. Il y a à peu près 15 minutes de ce qu'on m'a expliqué de questions, et après vous pourrez poser les questions qui vous sont venues à l'écoute de ce premier épisode. Lorraine, la série s'appelle Mon Odyssée, et sans vouloir non plus trop dévoiler ce qu'il y a dans les 7 épisodes suivants, tu dis au début de ce premier épisode que t'as ressenti aussi le besoin de déconstruire peut-être un cliché autour du placement, du foyer, de comment est-ce qu'on fait pour quitter sa famille et se construire malgré tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu racontes cette histoire ?
Oui. Je raconte cette histoire parce que, pour plusieurs raisons. Parce que quand vient dans l'amitié la question de... Merci. Mais pourquoi t'es partie de chez toi, pourquoi t'as été placée. Souvent, à chaque fois, je dis, mais t'es sûre que tu veux connaître la réponse. C'est pas forcément facile et tout. Alors, il y a des copains qui disent, ou des copines qui disent, oui, je veux connaître la réponse, d'autres non. Et en fait, quand je raconte l'histoire un peu moins détaillée que là, ça leur donne de la force. Et donc, du coup, je me suis dit, autant que ça profite à d'autres. Donc, voilà. Et aussi, c'est vrai que quand je suis partie, quand j'ai été placée, et après le placement, j'ai souffert. Ça m'a saoulée du regard qui changeait. Du regard des autres sur moi, c'est ça, qui changeait quand je disais que j'avais été placée, même si en fait je peux comprendre. C'est comme si en fait je devais avoir honte ou quoi, alors qu'en fait c'est pas forcément à moi d'avoir honte.
Ouais, comme si t'avais dégringolé dans l'échelle sociale, maintenant t'étais un enfant placé, donc on devait te regarder avec un peu plus de pitié qu'avant quoi.
Ouais, c'est pas échelle sociale, ouais, c'est plus une histoire de pitié. Ouais.
Alors dans ce premier épisode, on entend beaucoup Monsieur Tonton,
oui.
Qui pour dire la vérité, quand j'ai écouté moi la série pour la première fois, sachant qu'il y a cet avertissement au début de l'épisode sur l'évocation de violences sexuelles et psychologiques qui pourraient heurter, quand j'ai vu arriver ce mec qui a deux ou trois fois ton âge et qui a ce rapport d'être celui qui peut te permettre de réaliser ton rêve, je me suis dit, ah ça y est, ça va être encore une histoire d'un mec qui a le pouvoir et qui va en profiter pour l'user sur une gamine de 15 ans. Et en fait, c'est une personne extrêmement lumineuse qui va créer le déclic chez toi pour prendre conscience peut-être de tout ce que, en effet, tu refoulais depuis longtemps.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop ce que je dois dire.
Est-ce que tu le dis bien dans l'épisode, mais on dit souvent que... pour s'en sortir, il faut l'aide de certaines personnes. Ça peut être ses parents, ça peut être ses amis, ça peut aussi être des gens qui rentrent dans votre vie par effraction. Lui, il n'est pas vraiment rentré par effraction, mais il a su déceler chez toi quelque chose et finalement, ça dure. Tu as saisi ce truc-là au vol, quoi, presque.
Oui, en fait, j'ai senti... mais c'est comme ça que je fais tous les choix. Enfin, beaucoup de choix. Enfin, tous les choix. J'ai senti un truc dans mon cœur comme... je le dis même, je pouvais pas dormir, j'allais bien. Enfin, il y avait un truc qui... c'est chelou de dire ça, mais genre qui m'appelait, quoi. Et du coup, moi, dans ma famille, il n'y avait pas mail, il n'y avait pas MSN et tout. Le seul moyen de contacter cette personne... Ah oui, je voulais pas téléphoner, parce que sinon mon père, il allait voir les relevés téléphoniques, blablabla. Du coup, j'ai écrit une lettre, quoi. Et donc, quand j'en parle avec ce monsieur Tonton, c'est plutôt... Lui, il a l'impression que... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a vraiment aidée et tout. Et pour lui, c'est plus moi qui... Genre, j'ai pris sa main, quoi.
Et tu racontes que, avant cette première... tentative d'enregistrer un album, ses rêves de chanteuse et tout ça. T'as une vie assez stricte, assez réglée, presque comme du papier à musique. Est-ce que tu te tournes vers lui parce que t'as l'impression que les gens autour de toi, tu peux ne rien leur dire qui serait un peu intime? Est-ce que ça a un peu...
Non, en fait, je ne sais pas pourquoi, juste j'ai senti quelque chose. Mmh. Et j'ai senti que je n'avais pas dit assez merci quand j'étais partie. Donc je me suis dit, et j'ai quand même appris aussi à l'école et tout, et dans tout ce quotidien millimétré, le fait de la reconnaissance, la gratitude. Et donc du coup, ce que je ressentais n'était pas à la hauteur du merci que j'avais dit en disant au revoir. Moi, c'était juste ça. Hein. C'était pas genre je vais lui dire un truc et tout. Non, enfin, juste. Voilà.
Et sans, encore une fois, c'est un peu difficile de parler de tout ce qu'il y a dans les 7 épisodes d'après. Donc, vous comprenez qu'il y a un chemin avec cette odyssée. On est avec ce premier épisode au moment du départ. Et c'est une aventure qui a des hauts et des bas, mais qui s'écoute de manière assez étrangement, avec beaucoup de joie aussi. Est-ce que c'est toi aujourd'hui qui, avec le regard un peu rétrospectif de 15 années qui sont passées, t'arrives à le raconter comme tu le racontes, c'est-à-dire avec... c'est un peu un cliché aujourd'hui de parler d'une voix qui est toujours lumineuse, mais... Quand même, la première fois que je l'ai entendu, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, cette fille, elle va nous raconter une histoire atroce, mais on sent qu'elle a la pêche et qu'elle a de l'énergie. Est-ce que tu as l'impression que tu as eu besoin de forcer un peu le trait pour raconter ça, ou ça, c'est venu comme ça, un peu naturellement ?
C'est pas venu naturellement.
Non.
En fait, au début, du coup, avec l'équipe de Nouvelles Écoutes, j'avais envoyé une Bible, et je crois que c'était assez triste. Enfin, ce que je racontais, comment, enfin, avec l'énergie que j'avais plus jeune. Et donc, du coup, il y a eu, mais on te sent pas assez, toi, et tout. Et donc, du coup, ils ont intégré Muriel Coulin, qui a participé à l'écriture, et qui m'a permis enfin, on n'avait pas le ton, quoi, de trouver le ton, mais, enfin, voilà. Donc, du coup, mais après, à ce qui paraît, moi, j'ai pas l'impression de toujours avoir été triste quand j'étais plus jeune. Mais bah, quand j'en parle avec Monsieur Tonton ou avec d'autres amis qui m'ont connue, bah, du coup, quand j'étais ado et tout, pour eux, j'étais très, très triste et tout. Et que c'est petit à petit où mes amis m'ont appris à rigoler et des trucs comme ça, quoi.
Et dans cette odyssée, quand tu l'écoutes, quand tu la regardes aujourd'hui, ces 8 épisodes, tu te dis, bah, c'est ma vie, j'ai pas triché, je la raconte telle que je l'ai vécue, et elle sera aussi écoutée par Monsieur Tonton, ou par mes amis de l'époque, par Ariel, aussi pour raconter tout un pan de l'histoire que peut-être ils ont pas vécu.
Je sais pas compris.
Quand tu regardes ces 8 épisodes, mon Odyssée, est-ce que tu te dis c'est la version extrêmement personnelle de ce que j'ai vécu, mais je la livre aussi à tout un tas de gens qui m'ont connu à l'époque et qui peut-être ne savaient pas que je vivais ça, qui peut-être se disaient ah Déborah c'est la fille triste de la classe, ah Déborah c'est la fille qui un jour a disparu et aujourd'hui on a l'histoire, on a l'aventure.
Non, je fais pas pour ces gens-là. C'est cool s'ils l'écoutent et tout, genre ok, si ça leur permet de connaître un autre pan de l'histoire. Je m'étais pas posé cette question du tout. C'est vraiment plus, mais c'est vrai que c'est super sincère, quoi. Enfin, genre c'est vraiment comment moi j'ai vécu chaque moment, comment je l'ai traversé. Voilà, comment c'était chouette, comment c'était horrible, comment voilà.
Est-ce que vous avez des questions à l'écoute de ce premier épisode et sur la suite, et sur que ce soit sur la fabrication du podcast ou sur l'histoire en elle-même? Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Déjà, bravo, parce que c'est un très bel objet. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant d'intensité dans l'écoute, quoi.
Merci.
Et ni même le sujet. Et c'est vrai qu'en en fait, il y a eu une espèce de contre-pied, parce qu'on s'attend à ce que Monsieur Tonton soit le grand méchant loup, quoi. Et du coup, y a ce pivot. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien interprété aussi. Donc la question arrive. Comment est-ce que vous avez travaillé avec le musicien sur la composition? Comment ça s'est passé?
Je ne vais pas forcément pouvoir vous répondre parce que c'est Aurore Mailleux qui a réalisé le projet. Et par contre, il y a le compositeur qui est derrière vous. Il peut répondre. C'est Quentin Sirjac.
Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Bravo Lorraine, encore une fois. Écoutez, je vais parler un peu je vais juste vous dire quelques mots du travail que j'ai fait avec Aurore, du coup. Ce que je disais aux équipes de Nouvelles Écoutes, pour commencer, c'était qu'une bonne musique de... Moi, je fais des films, mais de podcast ou de radio. C'est d'abord une bonne idée de comment on peut utiliser la musique en tant que réalisateur ou réalisatrice. Et j'ai trouvé formidable la manière dont Aurore a saisi les propositions que j'ai faites. Sachant que moi, j'ai pas du tout travaillé à partir du résultat fini. Moi, j'ai que composé à partir du scénario, en fait, à partir du texte que j'ai reçu. J'ai lu l'histoire de Lorraine. Et j'étais profondément ému et j'ai commencé des pistes d'écriture à partir différents univers aussi. J'ai reçu des chansons parce que Lorraine avait chanté des chansons. Elle chante très bien. Donc j'ai reçu des chansons et j'ai fait des parties d'accompagnement de ces chansons à partir de, des voix a cappella, par exemple. Donc le morceau de piano de fin, par exemple, avec le piano préparé, c'est l'accompagnement d'une chanson traditionnelle hébraïque, mais sans les paroles. Du coup, comme ça, ça donnait quand même aussi un contexte. Et puis après, voilà, c'est beaucoup une question de montage de la réalisatrice qui a saisi une Bible, un peu à la manière de ce qu'avait peut-être fait Lorraine au départ. Et ensuite, c'est elle qui avait sa vision globale de réalisatrice et qui a intégré brillamment la musique. Voilà.
Bonjour, merci beaucoup pour cette écoute qui était vraiment très touchante et félicitations d'avoir pris cette parole. J'avais une question, est-ce que il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit il faut que je raconte cette histoire et il faut que les gens sachent un peu ce qui s'est passé dans ma vie?
Pas vraiment d'éléments déclencheurs. J'ai toujours voulu la raconter parce que c'est un tout petit spoiler. Genre. À un moment donné, j'avais dit, comme quand on est ado quoi, et qu'on est en colère, j'avais dit à mon père, tout le monde saura, vraiment. Justement, Monsieur Tonton m'avait dit, non, mais enfin, peut-être pas à tout le monde. Mais j'avais gardé ça en moi, mais comme un cri d'ado, quoi. Et après, j'ai oublié ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure des... Je sais pas, de la vie. Et je travaille sur un documentaire sur le placement. Et en fait, un moment où je raconte l'histoire des autres. Et je me suis dit que ce serait bien... Peut-être aussi d'aller au bout des choses, et si je raconte l'histoire des autres, aussi de raconter la mienne. Mais j'avais besoin de plus de... Ouh là là, de plus de pudeur. Et du coup, j'ai choisi le podcast et ainsi de suite. Du coup, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Okay.
Mon autre question, c'est du coup, le choix du podcast, ça a été pour vraiment en fait, avoir plus de pudeur, plus d'intimité et pas aller dans l'image et la vidéo, par exemple. C'est ça? Et ma question aussi, j'ai une autre question. Pourquoi le choix de 8 épisodes? Pourquoi ça a été conçu comme ça? Merci.
Oui, c'est de la pudeur parce que en fait, je voulais pas qu'on me voie. Et en fait, je trouvais ça aussi beau. Tout a commencé dans un enregistrement et que ça se termine dans un studio, quoi. Je trouvais que ça avait du sens. Et pourquoi 8 épisodes? Parce que l'histoire, elle a pris 8 épisodes à se raconter. Ben voilà. Et encore, on a coupé des trucs. Ça aurait pu faire plus, mais voilà. Mais on a choisi 8.
Déjà, bravo. Est-ce que tu as eu des épisodes qui ont été plus difficiles à enregistrer que d'autres?
Déjà, merci. Les lettres ont été très dures à enregistrer. J'avais très peur parce que je les avais juste écrites, je les avais jamais dites. Il y a eu des moments qui ont été... En fait, ça a été aussi... Non, pas aussi. Attends, je cherche mes mots. dès que j'avais peur, enfin dès qu'en fait il y a des moments dans ma vie qui avaient été durs à traverser, bah j'avais peur de les enregistrer. Mais du coup je parlais beaucoup avec Aurore, qui est la réalisatrice, et Marion, la directrice des productions de chez Nouvelles Écoutes. Et j'en faisais des caisses, en gros, je disais, mais je suis très angoissée et tout. Et en fait, les filles faisaient, ok, bah on va essayer. Et puis, et en fait, on essayait, et du coup, c'était plus dur. Parfois, on a dû arrêter les enregistrements. Enfin, genre, on a dû prendre 5 minutes de pause. Parce qu'en fait, la raconter, cette histoire, c'est un tout petit peu la revivre. Donc voilà. Non mais merci, comme ça, c'est bien, c'est bien.
Si je parle comme ça, vous m'entendez ou pas ?
Oui.
Ouais. Ma question, c'est...
T'as fait ce travail. Excuse-moi, mais je crois qu'il y a un côté cathartique. Ça se dit, ça ? Ouais. Et qu'est-ce que t'aimerais que ça apportait avec ça, en fait ? Pour d'autres femmes, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ait comme vie, en fait, ce podcast ? Et qu'est-ce que tu souhaites apporter avec ça ?
J'ai toujours pas la réponse de si c'est cathartique ou pas, parce que j'ai un super psy et tout. Donc je sais pas trop si ça l'est, mais je peux vraiment comprendre qu'on se le dise et qu'on croit à ça, donc je sais pas si oui ou non. En fait, j'aimerais qu'on se dise que c'est possible, pas que des filles, des garçons aussi, que c'est possible de s'en sortir, même quand c'est super dur et que t'as l'impression que c'est tout noir autour de toi et devant toi et derrière toi, que c'est quand même possible. Voilà, si tu respires, c'est possible. Même si c'est dur d'y croire, pendant ce moment-là, c'est possible.
Et quand tu dis c'est possible, tu entends la joie de vivre, en fait ? De retrouver la joie de vivre ?
Ouais. C'est possible d'aller bien, quoi. Ouais, qu'il y a de l'espoir. Même si je peux comprendre Enfin, parce que moi aussi, j'ai cru qu'il n'y avait plus d'espoir. Très souvent. Mais je me suis rendu compte qu'il y en avait. Donc, oui, si peut-être la joie de vivre, le fait juste de vivre, quoi. Et de pas se prendre de se prendre un peu moins la tête.
Merci beaucoup.
On a parlé de placement, on a un peu parlé de tes parents aussi. Mon Odyssée, je pense que vous l'avez compris, c'est quand même une jeune fille mineure qui décide de changer sa vie et de se sauver avec l'aide de certaines personnes, mais qui décide quand même de se sauver. Est-ce que tu te souviens à quel moment tu t'es dit, là, de toute manière, comme tu viens de le dire, c'est tout noir derrière moi, je ne peux plus revenir en arrière, il va falloir que je fasse qu'avancer. Parce que les 8 épisodes, c'est quand même, pour celui qui écoute, l'impression de quelqu'un qui est déterminé à ne plus revenir en arrière et à quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui en coûte, elle va continuer d'avancer.
Jusqu'à il y a quelques années, tous les jours, c'était tout noir. Donc tous les jours, il fallait que j'avance. Et c'était un plein temps presque pour ce monsieur tonton, parce qu'il y avait plein... Enfin, je l'appelais tout le temps. Comme je parlais pas, du coup, genre, on était juste au téléphone et en fait, on s'envoyait des textos pour parler. Et en fait, il m'expliquait souvent que pour l'instant, c'est tout noir, toutes les minutes, mais qu'un jour, ça va être 1 minute sur 2, puis après 1 minute sur 3, et ainsi de suite. Donc, c'était pas seul. Déjà, c'était presque tout le temps, et j'étais pas seule. Enfin, il y a ça aussi, j'étais pas seule.
Et ce monsieur tonton, qui agit quand même avec un enfant qui n'est pas le sien, une fille qui n'est pas la sienne, en protecteur, en parent ou en substitut de parent, en tout cas qui reproduit auprès de toi, auprès d'une fille qu'il ne connaissait pas deux jours plus tôt, ce qu'on attend d'un parent. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, aujourd'hui, de ce chemin parcouru ?
Je ne sais pas. Je crois qu'il est fier, je crois. En fait, je crois qu'il a toujours cru que ça irait un jour aussi. Mais voilà, je ne sais pas trop. C'est comme un peu pudique, ce genre de questions. J'en en parle pas tant. Mais c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Et c'est vrai qu'on ne se connaissait pas. Voilà.
Ouais, c'est dingue. Bah, c'est pour avoir un peu travaillé sur la question des mineurs délinquants ou des mineurs placés. C'est vrai qu'il y a une statistique qui est assez effarante sur la déchéance qui vient juste après les 18 ans, avec des chiffres assez dingues de personnes qui sont vraiment désœuvrées, sans domicile fixe, qui vivent sous des ponts et qui sont des enfants de l'ASE ou des enfants de la PJJ, des enfants qui étaient sous tutelle de l'État, qui étaient jusqu'à il y a très peu de temps dans des foyers, dans des centres éducatifs fermés ou renforcés, des gamins qu'on a essayé de remettre, avec beaucoup de guillemets, dans le droit chemin, qu'on a essayé d'aider en tout cas. Est-ce que toi qui as traversé ce chemin, tu disais aussi que tu voulais raconter quelque chose qui n'était pas trop noir et qui n'était pas caricatural, est-ce que toi... tu penses à ça aussi, au fait que t'es passé tout près aussi de potentiellement une autre vie, parce que t'aurais pu aussi choisir autre chose, finalement peut-être pas rencontrer ce monsieur tonton. Est-ce que parfois tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gamins que j'ai croisés dans les foyers, est-ce qu'un jour je les reverrai, est-ce que tu penses à ça des fois?
Il y a plein de questions. Alors, je sais pas. Attends, est-ce que je pense à... par exemple, moi, j'aime bien appeler les gens qui étaient placés avec moi des sortes de frères et sœurs de placement. Il y en a plein que je connais encore, pour le coup. En fait, dans ma tête, j'avais peur de... Ah, j'arrive, je sais pas répondre, j'arrive pas bien à répondre. Si j'avais pas connu... Il y avait un peu ça, là. Je prends ça, OK. Si j'avais pas connu Monsieur Tonton, ou si j'avais pas attrapé cette main, pas qu'il n'était pas tendu, mais voilà. Mais après, tendu. Après, elle était tendue. Je me pose souvent la question, genre tous les 26 février, ou à des dates clés, qu'est-ce qui se serait passé et tout. En fait, j'ai aucune réponse. J'ai plein de choix, enfin, ou d'idées. Je pense que peut-être que je serais pas là, peut-être que je serais pas en vie, ou peut-être que je serais devenue chirurgien cardiaque, et que ce qui m'aurait permis, du coup, financièrement de... je sais pas du tout pourquoi c'est lié, mais bon, dans ma tête, c'est lié, parce que j'étais une enfant, du coup, voilà, de pas dépendre de mes parents. Et du coup, de pas être obligée de... Enfin, du coup, de couper les ponts avec eux, avec toute cette famille et tout. Mais à chaque fois que j'y pense, j'ai jamais très, très envie d'imaginer plus loin, puis c'est pas forcément nécessaire. Voilà.
Et quand... Parce qu'on a un petit peu discuté avant la rencontre, et tu me disais que... quand, avant justement de rencontrer Monsieur Tonton, tu disais bah, peut-être que je serai cette personne qui un jour verra sa famille une fois à l'année, une fois dans les fêtes, et puis quand on me demandera de venir, j'aurai peut-être un truc à faire plus intéressant, ou peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. C'est ce que tu te disais à cet âge-là, à 14-15 ans.
Ouais, complètement. En fait, ça veut dire que moi, depuis que j'ai 4 ans, je priais tous les soirs à Dieu de partir. Et de m'en aller. Donc, j'avais un peu échafaudé des plans, ouais. J'avais échafaudé des idées de comment est-ce que j'allais faire plus tard. Et ça me stressait un petit peu parce que je me disais, mais si je leur dis que j'ai d'autres choses à faire, à un moment donné, ça la fout un peu mal. Ça m'encombrait vachement l'esprit. Et après, moi, dans mon esprit, c'était bah, du coup, quand on est diplômé de l'école de médecine en chirurgie, donc bah, je ne sais pas du coup, parce que je ne suis pas chirurgien cardiaque, mais je ne sais pas trop à quel âge, mais en tout cas, à ce moment-là... Mais j'ai perdu ma pensée.
Quand on est diplômé de la faculté de chirurgie.
Et je savais pas que c'était possible plus tôt. Voilà, j'ai compris. En fait, quand c'est sorti dans ma lettre, ce que j'avais vécu plus jeune à Monsieur Tonton, et qu'en fait, faut écouter les épisodes. Du coup, je me suis rendu compte que ce rêve de départ était possible autrement, par le placement. Ouais, voilà.
Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues depuis tout à l'heure, parce que je crois qu'on est à 15h29, donc c'est probablement la dernière, si vous en avez une, bien sûr. Non ? Si ?
Allez-y comme ça, alors.
Déjà, merci beaucoup. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était comment on est passé de ton histoire à un podcast. Comment ça s'est passé ? Qui est-ce que tu as contacté ? Est-ce que toi, tu as été contacté ? Comment le processus créatif et un peu ce partenariat-là s'est fait ?
Quand j'ai pensé au podcast, j'étais sur mon lit. Et après, je me suis dit, mais à qui je peux en parler ? Et du coup, j'en ai parlé à un copain producteur qui s'appelle Eloa Nouri, et qui m'a dit, je lui ai expliqué un petit peu et tout, et il m'a dit, je vais te faire rencontrer Julien Neuville, le producteur du podcast, que j'ai rencontré. On a discuté. Qu'est-ce que tu veux raconter, pourquoi, et voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Et après, plus pour l'écriture, je savais pas trop par quoi commencer. C'était un peu je raconte quoi au début, je commence par quoi, parce que j'avais plein d'idées pour après, mais je savais pas le début. Et en fait, j'ai appelé la personne qui a participé à l'écriture, Muriel, et je lui ai dit, est-ce que je peux raconter ça comme scène de début, genre un peu dans quel lycée je vis et tout, pour présenter un peu du coup ce qui allait devenir un personnage, quoi. Et elle m'a dit oui, et donc du coup voilà comment ça commence, en tout cas moi comment je me souviens que ça a commencé. Et après j'ai écouté de la musique et j'ai écrit. Et après il y a eu la possibilité l'idée de faire deux voix, genre Lorraine et Déborah, et puis genre Lorraine maintenant, genre moi maintenant, puis Déborah plus jeune, moi quand j'avais 15 ans, et du coup parler aussi de la dissociation, blablabli, blablablou, mais c'était très conceptuel, et en fait on se disait mais les traitements sonores après tout, on est un peu allé vers cette piste, et en fait on est revenu à c'est moi maintenant qui raconte genre, venez dans ma vie, quoi. Voilà.
Je vous invite à attendre le 24 et écouter la suite et rentrer dans déjà l'épisode 2. Merci, Lorraine, d'avoir répondu aux questions. Merci à vous pour l'écoute. Et bah, bonne écoute de la suite.